la vocation des communautés présentes sur la colline de Belloc. Retransmission de la table ronde du 10 février 2023 à l'abbaye de Belloc en la fête de Sainte Scolastique. Aujourd'hui, nous vous proposons la troisième et dernière partie de cette table ronde. Deux intervenants, nous entendrons dans quelques instants l'intervention du Père Bernard Devers, fondateur d'Habitat et Humanisme, mais tout de suite, écoutons le témoignage de l'ancien maire de la Bastide-Clérance, Léopold Darichon.
Bien, à chaque fois que je viens ici, d'ailleurs je te l'avais dit un jour, Luc, j'ai l'impression de respirer différemment. J'arrive sur cette colline. Et aujourd'hui, j'ai encore appris des choses que je ne connaissais pas. Et donc, c'est toujours avec un grand plaisir que je suis là. Ce que je vais vous raconter est une histoire courte, mais une histoire qui remonte assez loin dans l'histoire, tout au moins dans mon histoire personnelle, puisque mon histoire est liée intrinsèquement avec la commune de la Bastide-Clérance. Aussi loin que remontent mes souvenirs, et ils sont quand même lointains, puisque je suis né en 1949. Je me souviens encore de cette très grande cérémonie religieuse qu'il y avait dans mon village, qui s'appelait la Sainte Gaudence, je ne sais pas si certains d'entre vous ou certains d'entre vous ont connu, qui était une très grande manifestation religieuse, à la fin d'une cérémonie religieuse, permettait à l'ensemble du public de joncher les rues du village, où il y avait des fleurs sur le sol, des arceaux, des stations, etc. Et diriger ce cortège, deux évêques, l'évêque de Bayonne et le père abbé d'ici, de Bénédictin, qui avait le rang d'évêque. Donc c'est encore resté dans mon souvenir, et il y a toujours un chant qui, quelque part, gambade dans ma petite tête. Santa Gaudencia, oram pro nobis. C'est très très vieux tout ça. Et ça revient encore dans ma petite tête. Voilà, c'est l'un des peut-être les plus anciens souvenirs que j'ai. Alors après, évidemment, ma vie m'a permis de côtoyer très très fréquemment le monastère, notamment à travers la préparation de la communion et la confirmation. C'était rituellement un frère de bénédictin qui venait dans la paroisse de la Bastide-Clérance organiser cette cérémonie, cette préparation. Et puis, bon, des relations très personnelles avec des personnages hors du commun qu'il y avait ici, notamment le père Bernard, que certains d'entre vous aussi ont dû peut-être connaître. Donc c'est une relation très très particulière que j'ai évidemment avec le monastère. Et puis un jour, puisque je suis devenu maire en 1983, quelque temps après mon élection, est venu se présenter dans mon bureau un monsieur, qui est malheureusement décédé depuis longtemps aujourd'hui, qui aurait plus de 100 ans, 110 ans, 120 ans, je ne sais plus, qui s'appelait monsieur Pierre Dufour, et qui m'avait remis un petit opuscule sur l'histoire locale, et notamment sur l'histoire des relations entre la commune de la Bastide-Clérance et le monastère des Bénédictins. Alors je me suis permis de reprendre quelques éléments de ce petit document qui relate quelques événements ponctuels, dont certains d'ailleurs viennent d'être rappelés tout à l'heure par maire supérieur. Alors, à la Bastide, Belloc rappelle d'abord le souvenir d'une métairie de la famille Darieux, qu'il a vendu en 1872 à l'abbé Cayava pour la fondation du futur monastère des Bénédictins. C'est toujours en 1872, tandis qu'il revenait du monastère de la Pierre qui vive dans l'Yonne, où il s'était fait bénédictin, que le père Blastre de Saint-Pé, l'un des futurs fondateurs du Belloc, trouva sur sa route, en cette année, 1872, une statue de Notre-Dame, dont l'intronisation dans le monastère devait coïncider avec l'installation des moines. Le 14 août 1875, Ces derniers arrivent à la Bastide, où les familles se disputèrent l'honneur de les héberger, tandis que le 29 août était béni le monastère. Le 1er septembre 1875 est à marquer, nous dit-il, d'un caillou blanc pour la Bastide. En effet, une procession de 300 prêtres et de quelque 8000 fidèles, partie de l'église Notre-Dame de la Bastide de Clérance en direction du monastère, jusqu'à la limite de leur paroisse, ce sont 12 jeunes bastidos qui transportent la statue de Notre-Dame et ils sont relayés à la limite de cette paroisse par 12 jeunes hurtois qui arrivent ici même. Et c'est ainsi que les moines s'installent. Auparavant, on avait baptisé la cloche. Elle fut appelée Jeanne Adèle, des prénoms du parrain et de la marraine Jean Héribarne, notaire à la Bastide, et de Madame Adèle Fourcade, née Caillava, la sœur du père Michel Caillava. Toujours en l'église de la Bastide, le 21 novembre 1877, les premiers religieux de Belloc allaient prononcer les vœux solennels au cours d'une cérémonie des plus prenantes. Très vite, et après une première expulsion passagère en 1880, et j'y reviendrai un petit peu plus tard pour vous expliquer cet événement qui, je pense, a été un élément important ici. Donc très vite, et malgré une première expulsion passagère en 1880, l'abbaye connut une réelle vitalité, non seulement dans la région, mais aussi à l'étranger, où se succédèrent les fondations, comme en Argentine, aux États-Unis, en Palestine. Ce courant se confirmerait au siècle suivant avec les implantations au Bénin, puis à deux reprises au Burkina Faso. Mais les moines durent s'expatrier. À la suite d'un décret gouvernemental du 18 mars 1903, que vous venez de rappeler, mais en supérieur, ils se réfugièrent à Lascano, de l'autre côté des Pyrénées, pour ceux qui ne le situent pas, en Guipuscoa. 11 ans après, le gouvernement rappela les exilés pour défendre la patrie en danger. 40 bénédictins de Belloc furent ainsi mobilisés durant la guerre 1914-1918. Dès les débuts, 3 y laissèrent leur vie. Et dans les citations rapportées par ces soldats reviennent ces noms tristement célèbres, tels le chemin des dames, la malmaison, etc. Bien plus tard, durant la Seconde Guerre mondiale, ils eurent beaucoup à souffrir de la part de la Gestapo. En particulier le père abbé Jean-Gabriel Ondé, ainsi que le prieur et l'hôtelier, pour avoir clandestinement accueilli des alliés en fuite. Tout le monde à la Bastide connaît ces heures sombres. Et je rajouterai personnellement à ce que nous disait M. Dufour, que ici même a été aussi un lieu de résistance, encore beaucoup plus tard, lors de la dictature franquiste, qui permit au monastère d'être un lieu de protection. Alors, dans ce récit, j'ai retenu un jour qui m'a paru assez symbolique, que je vais vous raconter. Imaginez un petit peu, nous sommes ici sur ces lieux. Ça se passe le 6 novembre 1880. Le 6 novembre 1880 sera un jour de bien triste mémoire pour les pauvres, pour les malheureux ouvriers, trop souvent sans travail, pour les infirmes et pour les malades, en un mot pour tous les habitants de notre contrée qui aimaient les religieux, les respectaient, les bénissaient. Dès la veille, les amis et les conseils des pères bénédictins s'étaient retranchés dans leur monastère situé dans le canton de la Bastide. On apprit que vers minuit, un bataillon de chasseurs à pied, en garnison à Bayonne, partait pour le monastère. Les hommes emportaient 80 cartouches. Vers 6 heures du matin, le monastère est en émoi. On aperçoit au loin, sur la route, un grand feu allumé. C'était le signal convenu pour annoncer le passage et l'arrivée prochaine des troupes. Aussitôt, les cloches du monastère sonnent à toute volée. Et à cet appel, la foule envahit le plateau du monastère. La troupe arrive. Son attitude est calme. À l'air des chefs et des soldats, on sent qu'ils viennent accomplir un devoir pénible. Les commissaires et les gendarmes venaient d'arriver également de leur côté. On éloigne la foule. On dégage les abords du monastère dont les portes sont barricadées. Des cris partent de la foule. Vive la révolution, vive les bénédictins, vive la liberté, à bas les décrets. Dès que le tumulte est apaisé, le commissaire s'avance vers le monastère. Au-dessus de la porte d'entrée, à une fenêtre du premier étage, se trouve le révérend père Michel Caillava, assisté de son conseil, maître Léon Guichenet. Aux sommations légales qui lui sont faites, le révérend père répond en se déclarant le propriétaire du couvent. Il demande au commissaire s'il agit en vertu d'un mandat judiciaire et finit par déclarer qu'il ne cédera pas à la violence. Maître Guichenet, avocat conseil des religieux, prend alors la parole et d'une voix ferme et énergique proteste contre l'acte illégal, inique et brutal qui va s'accomplir. Le révérend père prieur du couvent paraît alors à son tour. Il est ému, sa voix tremble, sa figure est pâle. Néanmoins, avec cet accent qui donne la conscience de la vérité, il proteste au nom de la Sainte Église, dont les lois frappent d'excommunication tous ceux qui coopèrent à l'expulsion des religieux. De nouvelles acclamations se font entendre. Vive la liberté, vive les bénédictins. Alors le serrurier Corré, dont le nom est désormais tristement célèbre, entre alors en scène. Dès les premiers coups, l'indignation de la foule ne connaît pas de bornes, et des huées et des cris répondent aux coups de marteau. Mais la hache est impuissante, la porte résiste. On s'attaque alors à une fenêtre basse que les crocheteurs n'ont pas de peine à enfoncer. C'est par cette fenêtre que les agents du gouvernement ont pénétré dans un domicile privé. Une heure après, on voyait les religieux proscrits quitter leur monastère. La foule tombe à genoux à leur passage et réclame leur bénédiction. Beaucoup pleurent, tous les acclament. Mais à la manifestation bruyante, à la protestation de la conscience indignée, devait succéder la manifestation plus calme des sentiments religieux qui animaient la foule. Le Saint-Sacrement venait d'être porté dans une maison voisine et hospitalière, celle de, simplement des initiales, MD, je ne sais pas, l'un des amis dévoués des pères. C'est là que rendez-vous avait été donné à la foule qui a suivi avec recueillement le Saint-Sacrement jusqu'à la Bastide où monsieur le curé de la paroisse a donné la bénédiction. J'ai trouvé ça très beau, c'est pour ça que je voulais vous le raconter. Et donc, tout bêtement, lorsque j'ai lu cet opuscule qui était également, qui avait une autre richesse, qui expliquait l'origine du village, mais ça je vous en parlerai une autre fois si vous le permettez, j'ai eu une espèce d'électrochoc et je me suis dit que ma responsabilité était quand même d'essayer de continuer à tenir ce cordon ombilical qu'il y avait entre la petite commune dont j'étais le maire et les bénédictins et les bénédictines, puis c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Et j'ai pris la décision de faire une visite protocolaire tous les débuts d'année. Et ça a duré, je sais pas, une quinzaine d'années. Et je venais rencontrer le père abbé, qui est ici présent. Voilà. La mère supérieure aussi, oui, que j'ai rencontrée.
Je confirme.
Voilà. Parce qu'il me semblait qu'il fallait maintenir encore ce lien qui datait de plusieurs dizaines d'années. Voilà, tout simplement ce que je voulais vous dire. Et pour terminer, je voudrais me tourner vers le personnage qui a eu une idée, je crois, géniale. D'ailleurs, je lui ai dit, je lui ai écrit. Bernard Devers, qui est à côté de nous, pour lui dire combien notre émotion est grande ici et que nous ne sommes pas dans un lieu ordinaire. Nous sommes, au sens étymologique du mot, dans un lieu extraordinaire. Comment arriver à rester fidèle à au lieu de spiritualité, certes, ce haut lieu de la résistance aussi, et vous le découvrirez ce soir un peu plus avec l'arrivée de Charles Wideguin, qui est l'académicien basque, ce haut lieu de la culture basque. Comment arriver à continuer ce qui a existé pendant 150 ans ici? Je crois que l'héritage est lourd, à vous, à nous, à essayer de trouver une suite digne à ce qui s'est produit ici pendant 150 ans.
Vous venez d'entendre le témoignage de l'ancien maire de la Bastide de Clérance, Léopold Darichon, et voici la conclusion de cette table ronde par le père Bernard Devert, fondateur d'Habitat et Humanisme.
Vous posez bien la question, cher Léopold. Je ne sais pas si on pourra répondre, en tout cas on tentera. Vous avez parlé, cher père, en fait, qu'un monastère c'était un laboratoire et un oratoire. Habitamanisme, ce n'est pas un oratoire, mais c'est un laboratoire. Il y a déjà une part du chemin qui se réalise. Vous avez dit, ma mère aussi, en fait, au début de cette rencontre, que ce lieu avait été aussi un lieu difficile. Et nous savons que le difficile est le chemin. Donc nous allons essayer de l'emprunter. Il y a bien quand même des liens qui marquent des accords avec vos communautés, vos monastères, votre monastère et vos deux communautés. Sinon, nous ne serions pas là. Puisque c'est précisément, il y a presque 4 ans maintenant, en fait, à votre invitation, vous m'aviez demandé de faire une petite intervention sur Zindel. J'ai souligné d'ailleurs qu'en fait, heureusement que je n'avais pas la connaissance qu'il y avait parmi vous, en fait, un spécialiste de Zindel. Sinon, je ne serais pas venu. Il reste que ce spécialiste avait beaucoup d'humilité et qui m'a dit « mais on peut sans doute continuer ensemble ». Et continuer ensemble, le thème de cette conférence, ce mot est un peu prétentieux, mais de cette causerie, c'était en fait Dieu ou le réveil de l'homme. Et ce réveil, précisément, au sein de l'habitamanisme, depuis maintenant bientôt 40 ans, nous essayons en fait de le susciter pour tenter aussi de le vivre. Alors j'ai entendu qu'en fait, parler de changer, de faire changer, c'était en fait des mots qui allaient peut-être, qui n'allaient pas très loin. Mais vous avez retenu un mot qui me paraît effectivement très juste, c'est celui de la transformation. Et l'habitamanisme est au cœur de cette transformation sociale. Alors naturellement, entre ce qu'on souhaitait et ce qu'on vit, il y a des écarts tout à fait considérables, mais en tout cas, notre démarche, c'est tenter de faire en sorte qu'il y ait la maison. Vous avez aussi souligné, en fait, l'importance de la maison, de cette maison pour tous, et une maison, pour qu'elle devienne vraiment cette maison commune, c'est une maison à partir de laquelle on ne fait pas simplement que trouver un abri, mais un lieu, et là encore, vous avez souligné aussi, c'est-à-dire quand le monastère était un lieu, mais qui était aussi finalement un vecteur de lien. Et nous sommes bien, en fait, aussi au sein de l'habitat-humanisme, dans cette perspective. Faire en sorte qu'on n'entende pas comme cette personne dire, voilà, je ne peux attendre, en fait, des autres seulement qu'une acceptation polie. Et donc, nous tentons de faire en sorte que, notamment pour ces quartiers dits perdus pour la République, pour ces hommes et ces femmes qui n'ont pas la chance, ces enfants qui n'ont pas la chance, en fait, de vivre l'égalité des choses, et par là même qu'ils se retrouvent dans des situations tout à fait difficiles. Et donc, notre mission, voilà, je crois que vraiment c'est une mission, c'est de faire en sorte aussi de travailler sur la question de la dignité. Permettent à chacun d'habiter un lieu à partir duquel il peut exister et aussi se construire. Et c'est en se construisant que précisément alors on parviendra demain à des villes qui soient des villes plus humanisées. Habitat Humanisme aujourd'hui c'est une association, ça demeure une association qui a un peu plus de 2000 salariés, presque 3000 salariés, et notamment, en fait, un grand nombre de soignants, d'aides-soignants. Et nous savons, depuis, avec la Covid, et vous l'avez souligné, mais la Covid s'est entraînée aussi, bien, à la fois, ça a été aussi un révélateur, aussi, de bien de souffrances, bien de difficultés, aussi la recherche d'alternatives, où quand même, on voit aujourd'hui que il y a quand même toute une démarche intéressante qui conduit à considérer que la santé doit aussi être une invitation à la prendre en fait sur un plan absolument global de la personne et donc aussi dans sa dimension spirituelle. Beaucoup aimé l'approche de la spiritualité telle que vous l'avez évoquée, et non pas un lieu qui ferme, mais un lieu qui est ouvert. Et à cette ouverture, nous sommes précisément appelés. Alors, quelqu'un parmi vous, je vais être très bref, parce que quelqu'un m'a dit tout à l'heure, mais pourquoi, en fait, l'habitamanisme est venu à Belloc. Comme toujours, quand on vient quelque part, finalement, il faut se faire pardonner d'être là. Donc ça commence comme cela. On est venu parce qu'en fait, vous nous avez appelés. Et donc l'appel, c'est aussi, une approche spirituelle. Et vous avez dit aussi, vous avez beaucoup insisté sur la question de l'écoute, de l'oreille du cœur, de cette oreille intérieure. Donc il y a quelque chose qui nous relie, c'est précisément cette approche de l'écoute. Vous allez aussi, j'en suis certain, qu'à la fois vous allez nous inviter aussi à partir de la parole des uns des autres, de ces hommes et de ces femmes qui vont venir ici rejoindre ce lieu que vous avez habité et qui demeure un magnifique lien, comme Léopold l'a souligné. C'est dire que ça restera un lieu de résistance. Mardi 14, il y aura une rencontre avec la direction départementale des territoires pour voir si on ne pourrait pas accueillir quelques Ukrainiens. Voilà aussi une attention qui va être portée à des personnes qui ont connu cette situation de l'exil parce que leur pays est assailli. Et cette résistance, vous l'avez aussi souligné les uns les autres, c'est aussi quelque chose d'extrêmement fort en fait et qui a donné en fait aussi ce caractère de haut lieu spirituel. Je pense que la vie spirituelle, elle est toujours un combat. Et que ce combat doit conduire précisément à trouver un certain nombre de réponses pour ne pas laisser des hommes et des femmes dans des situations en fait de souffrance et d'abandon. Tout n'est pas... Au fond, aujourd'hui, nous balbutions des choses, en fait, à Belloc. D'abord, nous sommes dans une situation un peu difficile, mais je repense le mot difficile qui est votre mot, mère. C'est précisément parce qu'en fait, on s'est engagé à ne pas construire sur Belloc. Mais on s'est engagé, en revanche, à faire en sorte que des bâtiments soient transformés pour que ces bâtiments puissent en fait devenir le lieu d'une hospitalité. Et tant que cette hospitalité ne sera pas véritablement assurée, naturellement, ça rend les choses un peu difficiles par rapport en fait au projet. Il y a une activité économique qui a été la vôtre et que vous nous avez aussi confiée. Vous nous avez fait confiance à partir aussi de la fromagerie. Il y a une femme, des hommes qui ont repris aussi en fait aussi le flambeau et qui sont à la hauteur en fait aussi des ambitions que vous nous portez, que vous nous offrez en disant nous croyons, parce que sinon vous ne nous auriez pas appelé à faire en sorte que nous serons à la hauteur de la tâche. Naturellement, il ne s'agit pas d'en faire un lieu simplement économique, il s'agit d'en faire un lieu à partir duquel il y aura cette économie sociale et solidaire dont Habitamanisme est pionnier depuis bientôt 40 ans. C'est dire que les perspectives, elles sont importantes, il faudra faire des choix, on les fera aussi avec vous et par vous. On vous demandera, on vous sollicitera, parce qu'on aura besoin de vous sur un plan spirituel, en étant attentif aussi au respect de votre vie, cette vie intérieure, dont vous avez aussi souligné l'importance, et dans le même temps, cette vie intérieure, au cœur de cette oreille que vous avez, c'est aussi à partir de l'oreille, ça permet d'entendre, de dire une parole qui conduit à vivre un autrement. C'est précisément, me semble-t-il, la raison pour laquelle à la question qui était la vôtre, est-ce que vous voulez pas venir nous rejoindre, rejoindre ce lieu ? Nous avons répondu oui, avec audace aussi, cette audace de l'espérance, avec une forme sans doute un peu d'intrépidité, et peut-être parfois à certaines heures, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai été faire ? Maintenant, nous sommes engagés, investis, il faudra sortir vers le haut, vous avez parlé de la colline, et donc il faut aller vers un sommet, et bien par vous et avec vous, et le concours de chacun, nous essaierons de le gravir. Merci.
Vous venez d'entendre la conclusion du père Bernard Devers, fondateur d'Habitat et Humanisme. Vous pouvez retrouver toutes les interventions de cette table ronde sur notre site internet www.alapourdi.net. La vocation des communautés présentes sur la colline de Belloc. Retransmission de la table ronde du 10 février 2023 à l'abbaye de Belloc en la fête de Sainte Scolastique.